Parlerons-nous demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampe. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'une conversation que j'ai eue avec un de mes amis et confrères toulousains architectes, qui est, on peut dire, retiré des voitures, excellent architecte, et qui me faisait part du désir que l'on a, à un certain moment de la vie, de regarder ses œuvres passé et de voir comment le temps les a modifiées ou pas, et si elles ont pris de l'âge ou pas. Donc il était revenu voir une maison d'habitation qu'il avait faite pour un de ses amis il y a fort longtemps, et il avait été étonné, mais étonné et ravi aussi, de voir que sa maison avait été non seulement bien entretenu, mais que l'on avait respecté l'esprit de la maison et que donc son projet n'avait pas été modifié, ce qui est effectivement à la fois une inquiétude et une satisfaction dans ce cas-là. Et alors, dans la conversation, on partageait le même point de vue que cela se passe souvent, que des propriétaires privés et se respectent des œuvres. Et par contre, on convenait ensemble que ce n'était pas le cas pour les bâtiments publics, et dans la mesure où justement les élus qui occupaient un certain temps, et pas du tout cette longue durée des propriétaires particuliers, des bâtiments, s'affranchissaient de toutes les règles de droit, de toutes les règles de bienséance, de convenance et de respect de l'œuvre, et d'autant plus étonnant qu'il ne s'agissait pas de bâtiments leur appartenant, quoique on sait que l'appartenance ne justifie pas pour une œuvre artistique, une œuvre de l'esprit, quelle qu'elle soit, de la modifier. Alors, c'est d'autant plus surprenant que, comme je vous disais, ils ne sont que même pas des locataires, ils ne sont que des occupants temporaires, et d'autant plus par la fonction d'élu sur des bâtiments qui appartiennent donc à la collectivité, à nous tous, ils se donnaient le droit de modifier, souvent pour des convenances personnelles. Et effectivement, il y a deux sujets. Il y a le sujet du respect de la loi, comme je vous disais, et normalement les élus devraient être les premiers. Alors, souvent, enfin, la loi est votée par les députés, elle doit être appliquée par tous les élus, à quelque niveau qu'ils soient. Et c'est vraiment fâcheux que cet exemple ne vienne pas d'en haut, où justement on devrait avoir l'inverse, c'est-à-dire que l'exemplarité donnée par le public, par les bâtiments publics, et dans le respect, alors qu'ils soient à la fois dans la non-modification, mais aussi dans l'entretien de ces bâtiments. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un problème, par exemple, même si les architectes sont morts depuis très longtemps, des bâtiments anciens, notamment des églises, mais pas que, avec un manque d'entretien de l'État. Petite parenthèse, on se glorifie de la rapidité relative dans laquelle Notre-Dame de Paris a été restaurée ou est en train de finir d'être restaurée après 5 ans de travaux et à la suite d'un incendie. Et on en félicite évidemment l'État, les services et le président de la République lui-même, qui ne manque pas de le faire remarquer comme un exploit de sa part. Mais on oublie de dire que si cet incendie a eu lieu, c'était par un manque d'entretien. Il n'y a pas eu, contrairement à ce que les complotistes ont pu croire, il n'y a pas eu un attentat. Et simplement, c'était un défaut d'entretien. La charpente a brûlé d'une manière inconsidérée par des accidents qui n'auraient jamais dû advenir. Et également, le problème de tout ce qui pouvait être la sécurité de l'édifice, on s'est rendu compte que on avait été extrêmement négligent, à la fois la ville de Paris, à la fois le ministère de la Culture, enfin ce qui était d'autant plus inadmissible pour un bâtiment de cette importance, on peut dire, mondiale. Mais il est évident que de nombreux bâtiments n'ont pas cette notoriété, et notre patrimoine français, et on le voit aujourd'hui, en grand état de déshérescence et aurait besoin justement d'une politique active. Alors, évidemment, tout cela tombe mal parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas boucler le budget de l'État et actuellement, et qu'on a un déficit abyssal, et il est évident que les demandes des différents services, des différents ministères ont à être diminuées, rabotées, et ce qu'on peut souhaiter, c'est que ce domaine-là sera épargné par les coups de rabot qui vont être nécessairement infligés au budget de la France. Alors, cela nous ramène, et je ne veux pas faire de l'anti-parlementarisme ou une critique un peu trop facile des élus, mais malgré tout, lié à ce problème de cette légèreté par rapport au bâtiment, on peut dire aussi qu'il y a dans les transformations, et on le sait aussi dans l'aménagement des bâtiments, une légèreté financière et qui apparaît actuellement. Alors, j'écoutais il y a que quelques heures ce dont on parle aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur les économies et notamment sur les budgets des dotations de l'État en équipement. Et on a une somme extravagante, le 150 milliards, il est évident que cette somme est très très large, elle comprend les équipements publics, les aménagements, les urbains, mais aussi tout le mobilier de tous les bâtiments publics, bon, ce qui est évidemment une somme, mais qui paraît être une somme astronomique, surtout quand on se rend compte que la plupart des achats, en tout cas un grand nombre des achats, sont faits par un organisme assez opaque qui s'appelle l'UGAP et qui, effectivement, est le fournisseur. Il y a un catalogue qui est donné à tous les établissements publics, la moindre mairie, etc. Et que les prix sont beaucoup plus chers que ce que l'on peut trouver dans le privé. Alors, évidemment, les commentateurs disaient que c'était une obligation de démarcher. Non, pas du tout. Non. Alors là, il faut mettre les choses à leur place. Il n'y a aucune obligation pour se servir à cette coopérative qui, normalement, vu son chiffre d'affaires et les masses financières qu'elle brasse, devrait être très compétitive. Et on se rend compte, alors c'était cité d'une manière officielle, que la même chaise pliante que l'on trouve chez IKEA pour moins de 60 euros, eh bien, on l'a facturée 276 euros, ce qui fait quand même une différence considérable et évidemment totalement injustifiée. Alors, il ne s'agit pas de faire la chasse aux sorcières et d'aller voir qui c'est qui est ou passe l'argent de cet organisme, mais je voulais rappeler, c'est qu'il y a une liberté des élus pour passer des appels d'offres. Alors, l'appel d'offres, c'est effectivement une procédure qui demande des règles publiques de publication, des règles qui sont à donner sur le préalable du marché pour que les offres des différents concurrents puissent être à égalité. Et puis après, il y a le jugement de cela. Alors, il est évidemment plus simple de passer un coup de fil ou un message internet et d'être livré que d'avoir à faire ces deux procédures. Mais enfin, on sait que l'administration française est nombreuse, et même on se rend compte que par rapport à nos voisins, elle est surnuméraire et elle coûte fort cher à l'État. Au moins, cette procédure qui paraît la plus normale, c'est-à-dire d'abord qui peut mettre en concurrence des entreprises locales ou des fournisseurs locaux, et que on est sûr, contrairement à ce qui est dit sur les produits français qui seraient livrés à l'UGAP, on peut être plus sûr justement d'avoir les prix les plus bas, et en tout cas le rapport qualité-prix le plus bas. Et en fait, on se rend compte que tout cela, c'est une, j'ose le dire le mot, une gabegie considérable des deniers publics, et ceci expliquant pour une grande part cela par rapport au déficit de notre pays. Donc on va marquer une pause musicale et on va reprendre notre propos.
The sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man are made of the same things.
Freedom! Freedom! Freedom!
Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom.
Je vous parlais donc du droit de l'artiste à faire respecter son œuvre, ce qui effectivement est plus compliqué pour les architectes, parce que les bâtiments ont un usage, c'est plus facile à respecter. C'est plus difficile à faire respecter justement ce droit avec des adaptations et des modifications de la vie d'un bâtiment. Que par exemple une peinture. Une peinture, on suppose qu'il est pas très, il est pas elle doit être respectée et il n'est pas autorisé de la découper en morceaux, même si cela s'est fait dans l'histoire. Il y en a plein de cas où des œuvres ont été découpées pour des raisons diverses et souvent des raisons mesquines et monétaires. Et aussi des altérations de l'œuvre. Là aussi, l'histoire de l'art est pleine de ces modifications. Certaines, par pudeur, on a mis des culottes à des nus, etc. Mais donc, il y a ce droit de l'artiste. Alors, on va rappeler tout de même que le droit de l'artiste ne tombe pas et perdure. Alors il peut être tout le long de la vie de l'artiste, bien évidemment, mais il faut distinguer ce droit par rapport au versement de droit. Alors les architectes n'ont pas de versement de droit, bon, ce que évidemment je regrette, mais le versement de droit qui s'applique aux peintres en cas de revente de leurs tableaux, aux musiciens avec les droits d'auteur et aussi aux œuvres littéraires. En fait, il y a tout un encadrement bien précis de notre droit et aussi, on peut dire, le fait que notre pays est à la pointe de cela, puisque c'est Beaumarchais qui a inventé, on peut dire, le droit d'auteur avec le versement de droit et la protection des œuvres. Et donc ça nous ramène au XVIIIe siècle et nous avons donc été l'initiateur de ce droit. Alors, comme je vous disais, le droit des artistes à la non-modification de leur œuvre, ou à la protection en tout cas de l'esprit de l'œuvre, est quelque chose qui perdure dans le temps, et les ayants droit peuvent le faire jouer, ou alors ce sont, quand il s'agit de bâtiments protégés également, ce sont l'État qui le fait, et c'est une bonne chose. Mais alors, effectivement, par rapport à ses droits, l'artiste a aussi des devoirs. Alors on va reparler de l'architecture puisque c'est le centre de notre émission, et les devoirs de l'architecte aujourd'hui, ou les devoirs de l'artiste en général. Et il y a un mot qui revient très souvent dans la conversation sur l'art, c'est la liberté de l'artiste. Alors autant le droit de respect de l'œuvre me semble quelque chose d'absolument primordial, essentiel, et que l'on doit rappeler à tout le monde, et en plus aux gens chargés de le faire respecter, c'est-à-dire les pouvoirs publics et nos élus. Mais par contre, il est très curieux que l'on fasse état très souvent de la liberté de l'artiste. Alors soyons bien clairs. Il n'y a pas de liberté constitutionnelle. L'artiste est un citoyen comme les autres et il n'a pas plus le droit que n'importe qui. Il a à faire une œuvre avec les conditions du commanditaire et en cela, il doit correspondre dans la genèse de l'œuvre à ce qu'on lui demande. Alors on a entendu aujourd'hui, ces derniers temps, alors parlons par exemple de la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris, qui a été diffusée mondialement, on le sait, et il y a eu des polémiques sur certaines scènes qui avaient été jugées choquantes. Alors, on ne va pas épiloguer trop sur ce sujet, mais sur le fait que l'organisateur artiste, entre guillemets, de l'œuvre, un certain Thomas Joly, n'a jamais dit à un moment donné, mais j'ai fait cela avec l'accord ou du comité olympique ou, je ne sais pas, de la présidente de la République ou de la mairie de Paris ou des trois à la fois, que sais-je, mais il a revendiqué lui-même son désir de montrer ce type-là de civilisation. Mais je suis désolé, c'est une commande, alors elle est publique à la fois et puis... Peu importe l'organisateur des Jeux Olympiques, mais il en est toujours de la responsabilité du commanditaire. Et je pense, l'attitude la plus simple qu'il avait à avoir, qui était aussi une attitude de modestie, c'est-à-dire qui m'a désigné et qui a accepté ou qui m'a donné les consignes pour faire ce type de manifestation, mais qui, aux phases de son élaboration, parce que les phases de l'élaboration, il en est de même pour un spectacle que pour un bâtiment. Quand on fait une œuvre architecturale, on fait une première esquisse qui correspond, après entretien avec le maître d'ouvrage, le client, le commanditaire, et on est payé à l'acceptation, et s'il y a conflit à ce niveau-là sur les intentions et sur, on peut dire, la manière dont un artiste voit son œuvre, ben, on peut aussi arrêter les frais et être payé sur le travail qui a été fourni, et on rend son tablier et le commanditaire trouve quelqu'un d'autre. C'est une chose qui se produit normalement. Et c'est dans la vie toujours comme cela. Alors, il y a des phases successives. Dans le cas de l'architecture, il y a la première esquisse, ce qu'on appelle un avant-projet sommaire, puis l'avant-projet détaillé, puis les plans d'exécution. Enfin, toutes phases qui sont acceptées et rémunérées. Donc, on ne peut pas dire à un moment donné, j'ai découvert le bâtiment je ne suis pas d'accord. Non, il y a forcément acceptation. Donc, il en est le même. Et alors, pour parler d'une actualité toulousaine plus présente, on a entendu ces jours-ci quelques grincements par rapport au Festival des Machines qui vient d'avoir lieu ce week-end dans notre bonne ville de Toulouse. Et le thème, qui est luciférien, a pu être critiqué par certains, ce que je comprends très bien. Mais la riposte à cette critique de dire « il y a la liberté de l'artiste » est totalement fallacieuse. Il est bien évident qu'il y a eu, si ce n'est la commande préalable, on aurait pu espérer que justement l'argumentation du maire à 10 ans, j'ai attendu 6 ans après les gilets jaunes et après la crise de Covid pour faire cette commande des machines. On aurait pu penser que après ces crises à la fois sociales et sanitaires, on aurait pu avoir quelque chose de plus gai que cette sépulcrale, cette représentation des ténèbres et de Satan. Bon, enfin, ça, ce n'est pas à moi à décider, mais je pense qu'on aurait pu faire autre chose. Mais peu importe. Il s'agit en tout cas d'assumer ce choix et de le justifier par rapport à cela. Mais en tout cas, il ne peut être en aucun cas dit c'est la liberté de l'artiste, parce que la liberté de l'artiste, eh bien, c'est de correspondre au goût de son commanditaire. Et si on n'est pas d'accord, ben, on ne le fait pas. Donc, de ce côté-là, il ne peut jamais se servir de ce prétexte. Et je pense que les politiques seraient bien inspiré de prendre la responsabilité. Alors, mon dernier mot par rapport à cela, c'est qu'effectivement, les procédures de concours, bon, il n'y avait pas de concours dans l'histoire dont je parle récemment de Toulouse, mais dans le cas de l'architecture, on a des concours. Alors, les concours, c'est extraordinaire parce que on a un jury. Et on a un jury et avec un... Alors on peut dire, mais pourquoi le jury a fait tel choix? Puisque ce bâtiment, les gens ne l'aiment pas, et apparemment, l'élu qui est censé avoir la responsabilité de cela n'est pas lui-même enthousiaste. Alors l'élu dit, ah mais j'y peux rien, c'est un jury. Alors la question première, c'est qui a composé le jury? Et deuxièmement, qu'est-ce qui s'est dit dans le jury? Et le jury, figurez-vous que par une sorte de ridicule avec les jurys d'assises, on dit ah mais les délibérations du jury sont sont secrètes et on ne peut pas dire ce qui a été dit. Donc, elle est obligée de prendre cela. Et alors, en cas de problème, on dit « Ah, c'est pas moi, c'est l'autre. Et qui est responsable ?» Eh bien, responsable, c'est personne. Et par contre, si le budget dépasse, et on a l'exemple de grands bâtiments publics en France qui ont doublé, triplé, quadruplé les budgets initiaux, on dit « Bah, mais c'est la faute à personne. » Et donc, l'architecte dit « Ah, mais le programme a été mal ficelé et puis l'élu responsable dit « C'est pas moi qui ai décidé. » Donc, pour revenir au début du propos sur la gabegie des fonds publics, eh bien, on a là une deuxième source d'économie en responsabilisant les acteurs. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Je remercie Grégor, qui est à la technique. Et je vous dis à la semaine prochaine !